Radio Kassel, Grand Canyon. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Joséphine Charlotte Mayumakala, ministre honoraire, députée honoraire et vice-présidente du parti politique ULDC. Madame Joséphine Charlotte Mayuma, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien, merci. Et vous? Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci. Alors avec vous, dans cette émission, Madame Joséphine Charlotte Mayuma, nous parlerons de vous, de votre personne, de votre expérience dans la vie politique. Vous avez été une femme très active et vous l'êtes toujours dans la politique du pays.
Oui.
On parlera aussi de l'apport des femmes congolaises dans les instances de prise de décision au Congo. Mais avant de parler de tout cela, on va commencer d'abord par vous présenter auprès de nos auditeurs. Vous êtes née où et quand, Madame Mayuma Charlotte?
Je suis née le 20 octobre 1951 à Juma, dans la province de Bandundu. Je suis sixième d'une famille de 11 enfants.
C'est à Juma où vous passez votre enfance?
Oui, je passe mon enfance pas vraiment à Juma, je la passe dans une collectivité qui s'appelle Mikwi, dans cette partie de la République. Où
toujours dans la province de Bandundu?
Oui, oui, dans la province de Bandundu, où mon père était comptable à l'époque coloniale, un peu avant les indépendances. J'ai vécu là-bas avec mes frères et sœurs. Et puis après, comme il y avait des mutations, des permutations des agents de l'administration à l'époque, j'ai quitté cette collectivité pour aller dans une autre collectivité assez proche de la ville de Kikwite. Donc j'ai passé essentiellement mon enfance en province. Je suis arrivé à Kinshasa, la capitale, lorsque j'ai eu mon diplôme d'État.
Vous avez fait quelles humanités déjà?
J'ai fait les humanités littéraires dans une très bonne école, des mères et des sœurs de Saint-André, des Ramichiens en Belgique. C'était des sœurs blanches qui venaient de la Belgique, qui ont créé cette congrégation, cette grande école qui a formé de très grandes femmes qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Je me rappelle à l'époque des examens d'État, j'avais eu 70% aux examens d'État et j'ai cherché à faire la médecine à l'université Lovanium à l'époque, mais on reviendra sur cela.
Vous avez passé votre enfance dans la province de Bandundu. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette enfance dans cette province?
Je crois que le meilleur souvenir que je garde, c'est la vie en famille. Tout simplement parce que j'appartiens à une famille où il y a beaucoup, beaucoup de filles. Et comme on est à 11 dans la famille, il y a 9 filles et 2 garçons. Donc j'ai passé une enfance très, très heureuse dans cette petite localité pas loin de Kikwit, où j'ai mené une enfance heureuse. Comme toute jeune fille, comme toute fille vivant en province, j'allais puiser de l'eau, j'allais cueillir le bois, j'allais faire les champs. J'aidais ma mère qui faisait du pain à l'époque et on l'aidait pendant les vacances à vendre son pain. Donc le souvenir que j'ai gardé, c'est celui-là, j'ai passé. C'est la famille qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est ce souvenir-là d'une fille qui appartenait à une famille nombreuse, une famille heureuse.
Alors parlons de vos études universitaires, qu'est-ce que vous avez fait à l'université?
Ah là là, ça c'est vraiment quelque chose que quand j'en parle, ça me fait toujours mal. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu 70% des examens d'État, je voulais faire la médecine à l'université. J'ai demandé de prendre une inscription à la faculté de médecine. Et voilà que la réponse qu'on me donne a vraiment eu un impact sur le reste de ma vie. Vous allez comprendre très vite. Je voulais faire la médecine et on me fera comprendre qu'une fille ne peut pas faire la médecine. Parce que c'est réservé aux garçons, malgré mon pourcentage élevé. On m'obligera à faire les lettres. Faculté essentiellement réservée aux femmes.
C'était en quelle année déjà?
C'était vers les années 70-71, il y a longtemps de cela. Donc on m'obligera à aller faire l'histoire, à aller faire les lettres, parce que j'étais une femme. Donc moi je suis une victime de la discrimination dont souffrent les femmes. C'est la raison pour laquelle je suis devenue une féministe. C'est à cause de ça, parce que je suis au départ une victime, du fait que j'étais une femme. J'aurais pu être médecin aujourd'hui, mais j'ai dû faire les lettres pour enseigner. Parce que l'enseignement, c'est, disons, dans ce domaine-là qu'on dirigeait les femmes, les filles. Et à l'époque, comme il n'y avait pas tout ce mouvement d'émancipation, ce mouvement de sensibilisation et surtout d'information, j'ai souffert de l'information qui a fait défaut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup que vous m'invitiez à cette émission. Ça me permet de donner quelques informations aux femmes, parce que moi-même, si j'avais eu l'occasion d'avoir accès à l'information, peut-être que ma vie serait autrement. Peut-être à décider ainsi, mais j'ai été donc victime de cette situation-là et finalement j'ai fait les lettres. Alors comme ce n'était pas ma vocation, j'arrive à l'université, je termine les lettres, on me demande de faire l'agrégation pour pouvoir enseigner. L'agrégation, si vous réussissez, ça vous permettait d'être enseignant au niveau supérieur. Alors comme ce n'était pas ma vocation, j'ai refusé. Je termine l'université à Lubumbashi parce que j'étais à Lobanian et à l'époque, comme les étudiants, vers les années 70, les étudiants s'étaient révoltés, les étudiants ont refusé de faire le cours, on a eu des propos pas très bien vis-à-vis du pouvoir à l'époque, alors on avait décidé d'envoyer les étudiants à l'armée. Donc moi j'ai fait l'armée.
D'abord?
Ah oui, j'étais peine à l'armée, je portais le brassard que les militaires portent, les femmes portent aujourd'hui. Et comme peine, je pouvais arrêter. Donc, peut-être pour me venger, j'arrêtais souvent les garçons. Hein, parce que moi, j'avais été victime de cela. Donc, après, je termine l'université. Donc, je suis milicienne, comme on disait à l'époque au campus de Lubumbashi. Le matin, on commençait par faire les réunis. On était encellés avec les filles. Nous étions encellés.
Il y avait beaucoup de filles.
Il y avait quand même beaucoup de filles. Beaucoup moins par rapport aux garçons.
Alors, dites-moi, madame, je me suis peut-être mariée.
Oui, je suis mariée. Je suis mère de 6 enfants. 3 garçons, 3 filles. Je suis grand-mère également. J'ai 3 petits-enfants. La plupart de mes enfants ont déjà terminé les études et ils travaillent, sauf le tout dernier qui est encore à l'université. Mon mari, c'est M. Kala Hébert. C'est comme ça que je suis Mayuma Kala. Kala, c'est le nom
de votre mari.
Le nom de mon mari.
Avec les fonctions que vous assumez actuellement, vous êtes vice-présidente d'un parti politique. C'est facile pour vous de gérer la famille, le parti, sans parler des associations que vous gérez aussi?
Absolument, je pense que c'est pas facile. Aujourd'hui, les enfants sont grands, chacun est chez lui, mais lorsque j'étais ministre, essentiellement, j'avais des enfants à bas âge, parce que j'ai été également au comité central du mouvement populaire de la Révolution pendant pratiquement 10 ans. Je suis arrivé même au niveau du bureau du comité central du mouvement populaire, qui était vraiment un organe important à l'époque. J'avoue qu'à l'époque, comme j'avais des enfants à bas âge, c'était pas facile du tout. Mais je crois que c'est une question d'organisation. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on accorde beaucoup de facilité à la femme, parce qu'elle doit quand même participer au développement de la nation, mais il faut tenir compte du fait qu'elle doit s'occuper aussi des enfants et aussi le papa aussi, le père de famille devrait aussi s'occuper des enfants pour ne pas laisser toute la charge à la maman.
Radio Capine, grand témoin.
Joséphine Charlotte Mayuma Kala, ministre honoraire, députée honoraire et vice-présidente du parti politique ULDC, union des libéraux démocrates chrétiens et quelques grands témoins, soit pour vous aujourd'hui. Parlons de votre parcours politique, madame Mayuma Kala. On avait déjà commencé à aborder ça. Comment vous vous êtes retrouvée dans la politique?
C'est à partir du campus de Lubumbashi, où à l'époque, il y avait beaucoup d'autorités de Kinshasa, des autorités nationales qui venaient chez nous au campus. Nous avions un recteur très dynamique, Dieu et son âme, c'était M. Colli, qui est décédé déjà, qui invitait beaucoup les autorités politiques qui venaient. Je me rappelle de M. Madrandele, qui a d'ailleurs trouvé la mort chez nous au campus après avoir fait une conférence. Donc c'est en côtoyant des personnalités politiques de l'époque, M. Sakombi également, Inongo qui venait aussi chez nous, et d'autres, M. Ngouze Karlibond, qui venaient faire des conférences. Et moi, j'aimais beaucoup, j'allais assister à ces conférences, parce que j'avais comme amie Mme Wivine Ngouze Lando, qui en fait m'entraînait aussi sur la scène politique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ensemble avec elle, on était à la GMPR, qui était pratiquement une organisation politique de la jeunesse du mouvement populaire. populaire de la Révolution à l'époque.
Mais c'est très active.
Oui. J'étais, disons, brigadière, comme on disait. J'étais très active au campus. Et c'est comme ça qu'en côtoyant ces autorités, lorsque ma grand-mère est morte chez nous, je faisais partie de la délégation des étudiants qui sont venus à Kinshasa pour enterrer ma grand-mère qui était le directeur du bureau politique. Donc j'ai eu l'occasion de voir pendant ce séjour-là les personnalités dont j'entendais parler. Et en les côtoyant, en assistant à leurs conférences, que le goût de la politique est né à moi. Et c'est surtout, disons, en voyant Mme Roselandou, que je voyais aux conférences, qui intervenait, alors que d'autres femmes ne prenaient pas la parole. Alors moi aussi, je me disais à l'époque, bon, à la prochaine conférence, moi aussi, je vais prendre la parole. Donc j'ai essayé de vaincre ma timidité de filles, de femmes à l'époque. J'ai commencé à prendre la parole. J'ai commencé à côtoyer toutes ces personnalités.
Et là, il n'y avait pas de discrimination?
Bon, vous savez, là, il y a aussi la nature qui intervient. Il y a la timidité, vous savez, que d'une manière générale, les femmes sont timides. Moi, petit à petit, j'ai vaincu ma timidité. Et puis, comme j'étais aux côtés de l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les personnalités que j'ai eu à fréquenter, et puis les études que j'ai faites, j'ai fait l'histoire. Donc, j'ai appris l'histoire des grands hommes. Les grands hommes politiques, les rois, les souverains, les reines et tout cela. Donc tout ça, ça a suscité en moi le goût de faire de la politique et ça m'a donné la passion de la politique pour la femme, si vous voulez. Quand j'ai terminé l'université, j'ai été travailler au secrétariat général de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution qui était en fait une structure ni administrative ni politique. Et à l'époque, mon secrétaire général, c'était M. Sampasa Kaweta Milombe, que Dieu et son âme, il est décédé également. Donc j'ai travaillé là-bas et j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager et j'ai eu l'occasion de faire la connaissance des femmes qui faisaient de la politique à l'époque. Et c'est comme ça que de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution où j'ai travaillé, j'ai été nommé au comité central qui était un organe, excusez-moi, tout à fait politique. Voilà comment j'ai commencé à faire la politique. Les femmes considèrent qu'il y a beaucoup de risques en politique. Il faut l'avouer également, il y a beaucoup de risques en politique et les femmes n'osent pas prendre ces risques-là, mais il y en a de plus en plus qui font de brillantes carrières politiques, pas seulement chez nous au Congo, mais même en dehors de la République démocratique du Congo, sur le plan africain et dans le monde. Je crois que nous avons des brillantes femmes. Aujourd'hui, je peux parler de Mme Hillary Clinton, qui occupe de hautes fonctions. Je peux parler de Madeleine Albright pour parler des Américaines. Aujourd'hui, nous avons une femme qui est présidente élue au Nigeria, Mme Ellen Johnson.
Au Liberia, vous vouliez dire?
Au Liberia, oui. Je m'en excuse, au Liberia. Donc, je peux dire aussi dans mon pays, pourquoi aller si loin dans mon pays? Il y a des femmes qui font une brillante carrière en politique. Donc,
vous-même, par exemple?
Bon, je ne pourrais pas parler vraiment de moi-même, mais puisque vous le dites, je vous remercie. Mais je crois qu'il y en a, c'est pas la peine de commencer à citer des noms pour ne pas oublier d'autres, mais il y en a, et les femmes peuvent être des grandes et des bonnes politiciennes. Je les encourage et je souhaite que la société ne fasse plus trop de discrimination. Et donc, à partir du comité central, où j'évolue en 1981, dès qu'on crée le comité central, j'étais engagé aussi au ministère de la condition féminine et famille. Après la jeunesse du mouvement populaire, me voici à la condition féminine et famille où m'amène mon amie d'antan, Mme Landou. Et c'est de là, de ce poste de directeur, en même temps membre du comité central, que j'ai été nommé ministre de la condition féminine et famille en 1986.
Et ça, c'est un remplacement à...
Un remplacement à Mme Sokifouane. J'ai occupé la fonction jusqu'en 1990, lorsque le président Mobutu lancera le processus de la démocratisation, mettra fin au monopartisme. Et c'est à cette époque-là, en 1990, au mois d'avril exactement, après avoir fait 4 ans d'affilée, j'ai battu le record à la tête de ce ministère que j'ai quitté en 1990.
Après le régime du maréchal, donc en 1997, c'était le silence total. On n'entendait plus parler de vous.
Lorsque je quitte la fonction de ministre de la condition féminine, dans le bureau de l'État, je continue la fonction à la maison. Le jour où le maréchal Mobutu va abandonner le MPR pour aller vers le multiparti, le 24 avril 1990, lorsque nous rentrons chez moi à la maison, on se retrouve le même jour avec un groupe de femmes. On se dit, mais maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous devenons quoi? Est-ce que nous allons créer un parti politique? Puisqu'on dit, maintenant, c'est autorisé de faire des partis politiques. Nous faisons un parti politique, nous faisons une association, une OSBL, une ONG, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on a opté pour une ONG. Et nous allons mettre en place une ONG qui s'appelle la Ligue des femmes congolaises, avec autour d'autres femmes, et ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Oui, ça existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est après, dans le cadre de cette ONG, nous formions les femmes, nous sensibilisons les femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge. Et je me rappelle à l'époque mon slogan, qui est toujours valable jusqu'aujourd'hui, c'est « Femmes, Longola Loboko Nalitama, Maman Longola Loboko Nalitama », en français, femme, prenez-vous en charge. Un slogan vraiment très porteur que nous disons à toutes les femmes, on les sensibilise autour de ça. Et dans ce cadre-là de la LIFEC, voilà le premier d'un jour qui me voit en train de faire cette sensibilisation aux femmes, de leur donner des petits crédits. Le premier de nous décidera de nous venir de voler à notre secours. Il va nous donner des financements qui nous permettront d'organiser des séminaires de manière formelle pour permettre aux femmes, expliquer aux femmes comment accéder au crédit. Et à partir de ça, on leur donnera des petits crédits. Et puis finalement, nous allons mettre en place une banque, une banque de proximité pour donner des petits crédits aux femmes très pauvres. Et cette activité continue jusque maintenant où je suis assise là devant vous. L'institution est devenue pratiquement une institution de microfinance, une SPRL, suivant les exigences de la Banque centrale. La LIFEC continue toujours comme ONG. Et lorsque le président Laurent Désiré Kabila prendra le pouvoir ici chez nous, à un moment, il y avait comme une léthargie des activités politiques. Et moi, comme j'ai été très visible, j'ai travaillé avec le président Mobutu, bien sûr, ce qui est arrivé aux uns est arrivé aussi. J'ai subi pas mal de pression, je préfère appeler ça comme ça. J'ai dû à un moment prendre un peu de recul, si vous voulez. Je n'ai pas quitté le pays, je ne suis pas allé en exil, je suis resté là. Mais j'ai eu quand même quelques problèmes pour avoir travaillé avec le président Mobutu. Et puis finalement, avec les autres amis, nous nous sommes regroupés, d'autres personnes qui avaient travaillé avec le président Mobutu, nous nous sommes regroupés, nous avons créé une structure qui s'appelait le collectif de l'opposition démocratique plurielle, qui s'appelle en abrégé le CODEP, qui dirigeait à l'époque M. Kamitatu Masamba. Et dans ce regroupement où il y avait une trentaine d'hommes, il y avait deux femmes, dont moi et puis Mme Anne-Marie Makombo. Donc voilà, nous sommes à l'époque, nous constituons ce qu'on appelle l'opposition non armée. Et puis finalement, le président Laurent Désiré, que Dieu ait son âme, nous quitte. Voici venir le président Joseph Kabila qui commence une ouverture, n'est-ce pas, vers les autres formations politiques. Nous avons connu donc cette guerre atroce, le pays est complètement déstabilisé, nous traversons donc cette période, et voilà par où je suis passé, dialogue intercongolais rapidement. Je faisais partie de ces femmes déléguées au dialogue intercongolais, mais tout cela, ce n'est pas tombé du ciel non plus. Nous avons dû nous regrouper entre femmes et nous avons créé, à mon initiative, je suis toujours en train de créer plein de trucs, nous avons créé une structure qui est opérationnelle jusqu'aujourd'hui, la dynamique des femmes politiques congolaises. Je me rappelle, à l'époque, nous sommes avec Mme Poloupe, Mme Eve Bazaïba, Mme Anne-Marie Makombo, plein d'autres femmes. Nous faisons le tour des partis politiques et c'est comme ça qu'il y avait un bon nombre de femmes je crois que c'était pas beaucoup, 5 ou 6 délégués issus des partis politiques de l'opposition
non armée.
Je sers le pays aujourd'hui en dirigeant mon parti politique parce que mon président, le ministre de la Coopération, M. Réan Chibanda, il est au gouvernement. C'est lui le président national du parti, comme il est au gouvernement. C'est moi qui dirige le parti aujourd'hui. Donc,
vous en sortez facilement?
Bon, c'est pas facile non plus, hein. Mais je m'occupe du parti au quotidien. Je suis là, voilà. Et mon parti fait partie des partis qui ont créé l'ANP autour du président de la République. Donc, je suis là avec un parti qui fait partie de la majorité.
Un parti qui n'est pas très, très connu, hein?
Oui, je crois que ça dépend. Nous sommes un nouveau, c'est un nouveau parti qui existait avant sous une autre appellation, PLBC, dont le secrétaire, un des responsables à l'époque était le premier ministre Moulumba Lukuji, avec toujours M. Chibanda à ses côtés. Et aujourd'hui, peut-être, il fut un moment où nous étions parmi les premiers partis émergents, hein, parmi les partis qui émergeaient, puisque nous n'avons pas eu beaucoup d'élus en 2006. Mais après, le parti a commencé à avoir une certaine visibilité. Mais aujourd'hui, à un moment, nous avions choisi comme stratégie de travailler sur le terrain sans faire peut-être trop de bruit.
Sans être médiatisé.
Oui, un peu moins.
Voilà, alors madame, je vous ai une Charlotte Mayuma, c'est l'année jubilaire, c'est l'année du cinquantenaire. Parlons de l'apport des femmes dans la reconstruction de la RDC 50 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que les femmes ont été présentes dans la reconstruction du pays, pour le développement du pays?
Oui, absolument. Absolument, je le dis en connaissant des causes, je le dis parce que je suis, disons, aux affaires, si je peux m'exprimer ainsi, depuis les années 80, et les femmes participent au développement de ce pays. Je crois que, par exemple, si je prends le domaine de l'agriculture, je crois que le Congo est un pays où l'agriculture occupe une grande place. Et je sais que l'agriculture est vraiment entre les mains des femmes. Et lorsque nous allons à l'intérieur du pays, nous savons que la population à l'intérieur vit des champs. Et les champs sont faits par les femmes. Mais lorsqu'il faut capitaliser tout ce travail-là, le rôle de la femme ou la contribution de la femme n'est pas tout à fait quantifiée. Parce que la femme se lance plus dans les activités informelles. Dans le domaine du commerce, ce sont les femmes aujourd'hui, en dehors de l'agriculture, qui font le commerce. Mais généralement, c'est de manière informelle. Pas nécessairement, pas seulement le commerce, mais qui se lance aussi dans les affaires. Sa contribution est aussi dans le domaine de l'éducation. C'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui est chargée d'inculquer aux enfants les valeurs morales. Et je vois d'ailleurs, c'est le cheval de bataille de madame, la première dame de la République démocratique du Congo, qui est très, très préoccupée par le domaine de l'éducation. Et ce domaine-là est entre les mains de la femme. Et également, la contribution de la femme, on peut la voir aussi dans le domaine politique, comme nous avons eu à le dire tout à l'heure, dans le domaine politique, dans toutes les institutions, il y a des hommes et des femmes, même si ce n'est pas encore l'idéal, puisque l'idéal serait qu'on arrive à la parité, mais j'espère, je souhaite qu'on arrivera à cela, mais puisqu'il y a des préjugés sociaux, il y a des mentalités assez rétrogrades, des mentalités discriminatoires, les disparités dont souffrent les femmes, c'est pour ça qu'il y a un frein de ce côté-là. On a célébré le 50e anniversaire de l'indépendance. Dans les différents domaines qu'on a abordés, on n'a pas entendu beaucoup parler des femmes, mais c'est par oubli, parce qu'on n'accorde pas vraiment beaucoup d'importance à ce qu'elles ont fait. Et j'en profite aussi pour dire que la société ne devait pas considérer les problèmes des femmes comme des problèmes réservés aux femmes. Ce sont des problèmes de la société. Une société ne peut pas se développer si on laisse de côté la femme.
Madame Josephine Charlotte Mayuma, c'est vrai, de plus en plus, on voit que les femmes se lancent dans la politique, de plus en plus elles occupent des hautes fonctions politiques. Mais on, je prends l'exemple des élections législatives de 2006. Oui. Il y avait quand même beaucoup de candidates femmes qui se sont présentées, mais malheureusement, elles n'ont pas été élues. Et il y a certaines femmes qui disent même que le problème, ce n'est pas seulement l'homme qui combat la femme, mais aussi la femme qui se combat elle-même.
Je suis de l'avis contraire, malheureusement. Je crois que par rapport au nombre de femmes candidates, les femmes ont été bien élues. Il ne faut pas regarder le nombre de femmes élues. Il faut regarder le nombre de femmes candidates. Et lorsque nous regardons celles qui sont aujourd'hui au Parlement, moi, j'ai dit que les femmes ont été très bien élues. Je crois que les raisons qui ont fait qu'il n'y avait pas beaucoup, moins de femmes élues en 2006, c'est aussi des raisons d'ordre sur le plan de l'organisation, peut-être qu'il y a manqué le plan de moyens. Lorsque vous parlez de, il n'y a pas que les hommes qui les ont combattus, il y a aussi
la femme elle-même.
Oui, tout à fait. Et je dis toujours, c'est que quand la femme combat une autre femme, c'est considéré comme quelque chose de très grave. Et pourtant, les hommes se combattent plus entre eux. Face aux disparités qu'il y a entre l'homme et la femme, la société parle plus du combat que les femmes se font entre elles. Ce phénomène-là, c'est un phénomène de la société. Ce n'est pas seulement l'apanage des femmes. Les hommes aussi, entre eux, se font des coups bas. Pire que ce que les femmes se font entre elles. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs les guerres. Les guerres, c'est souvent entre les hommes. Nous ne sommes que des victimes.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Madame Joséphine Charlotte Mayuba-Kala, nous tendons vers la fin de notre entretien. Quand vous n'êtes pas au bureau, quand vous ne vous occupez pas de votre parti politique, comment vous passez votre temps?
En dehors du parti aujourd'hui, je m'occupe, je suis aussi fleuriste.
Vous avez un beau jardin chez vous à la maison.
Comment le savez-vous?
Non, j'imagine, parce que vous aimez les fleurs, vous êtes fleuriste.
Oui, je crée des jardins. J'ai créé beaucoup de jardins ici dans la ville, chez des particuliers, même parfois dans des résidences officielles. Et aujourd'hui, j'ai en dehors du parti, j'ai bien sûr mon ménage, ma famille. Et je m'occupe de cette institution de microfinance dont je vous ai parlé, où je suis le directeur général de cette institution. Je m'occupe également de cette ONG dont je vous ai parlé, la Ligue des femmes congolaises. Je m'occupe de l'organisation politique la DINAFEP, dont je vous ai parlé, la dynamique des femmes politiques, et je m'occupe également de la décoration florale.
Vous passez peu de temps en famille, apparemment.
Oui. Je m'organise pour quand je suis, puisque mon mari travaille également. Nous sommes organisés pour nous retrouver aussi en famille en ville. Alors, je crois que tout ça, c'est une question d'organisation. Sur une journée, j'ai du temps à consacrer pour chacune des activités que je venais d'énumérer par la grâce de Dieu qui me donne le souffle de vie tous les matins. C'est donc celui-ci infiniment reconnaissant que j'arrive à organiser mon emploi de temps pour qu'il y ait une efficacité dans ce que j'ai fait et pour que le résultat soit plus ou moins bon.
Et vous avez aussi d'écouter la musique?
Beaucoup.
J'aime quel beaucoup. Genre de musique que vous aimez bien écouter souvent?
La musique, la salsa, par exemple. La salsa, j'aime beaucoup.
Vous la dansez aussi?
Ah oui, je suis une personne, j'aime beaucoup danser. J'aime aussi la musique de mon pays, la musique congolaise, moderne. J'aime aussi le folklore congolais de chez moi, de ma province. J'aime aussi le folklore du Bas-Congo. J'aime le folklore des Baluba également. Et j'aime aussi la musique classique. Et puis la musique religieuse.
Voilà, madame Joséphine Charlotte, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, qui voudraient se lancer dans la politique, mais qui sont encore un peu réticentes ou peut-être complexées?
Oui, je crois que j'aimerais dire à cette femme d'aller de l'avant, de travailler beaucoup. C'est par le travail qu'on peut obtenir de bons résultats. C'est l'occasion pour moi de profiter pour dire aux femmes d'être présentes, d'être prêtes, de continuer le combat là où elles sont, qu'elles soient dans les domaines informels ou formels qu'elles travaillent. Je dirais aussi aux femmes de leur lancer un appel pour leur dire de bien se préparer aux élections. Bientôt nous aurons des élections, nous allons pleurer en disant qu'on n'a pas été élu. Que les femmes n'hésitent pas à poser leur candidature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de risques en politique, mais je les invite à venir rejoindre celles qui sont en politique. C'est comme ça que nous aurons des bons citoyens, des bonnes citoyennes sur lesquelles le pays peut compter demain.
Madame Joséphine Charlotte Maïma, je vous remercie d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation.
C'est moi plutôt qui remercie la radio Capis. C'est la deuxième fois. Merci de m'avoir donné encore cette occasion. C'était vraiment avec plaisir que j'ai participé à votre émission. Je félicite beaucoup la radio Capis.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Joséphine Charlotte Maïma-Kala, ministre honoraire, députée honoraire et vice-présidente du parti politique ULDC, Union des libéraux démocrates chrétiens. Merci à Eddy Marquis qui était à la technique. Au micro, Kéline Couté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix et bon week-end à tous.